France Inter, le 18-20.
Cette fois, ça y est. Alors, c'est la fin d'une séquence. Le grand débat a été lancé sur la crise des gilets jaunes, comme on lance un canadair sur des feux de forêt dans un été de canicule. Sauf que maintenant, il faut des réponses et elles arrivent donc maintenant. Emmanuel Macron a promis du concret, des annonces fortes, c'est ce qu'on dit dans le jargon politique. On sait déjà qu'il sera extrêmement difficile de contenter tout le monde, voire totalement impossible, tant ce mouvement des gilets jaunes et le grand débat ont montré une France fractionnée, le reflet de son rond-point, de ses fins de mois. Emmanuel Macron devra évidemment parler pression fiscale, mais quand on parle de TVA, d'impôt sur le revenu, de CSG ou d'ISF, évidemment, on ne parle pas aux mêmes personnes. Ceux qui veulent un changement de cap intégral seront forcément déçus. Les premiers signes, la semaine dernière, l'ont déjà dit, qu'il n'y aura pas de changement de cap intégral. Ceux qui veulent des changements institutionnels profonds, façon RIC par exemple, risquent également de rentrer bredouille. Mais voyons ce qui peut se passer, ce qui peut se dire, notamment sur le front de la proportionnelle. Ce qui est sûr aussi, c'est que cette séquence qui se termine, Emmanuel Macron doit à minima en sortir, sinon vainqueur, en tout cas ragaillardi, sinon on voit mal comment il pourra poursuivre sereinement ce quinquennat. En tout cas, on le verra ensemble. Il a promis des mesures puissantes et concrètes, fermez les guillemets. Il mise aussi, c'est ce qu'on nous dit, sur un effet de surprise. On saura très vite si son discours est de nature à arrêter les marcheurs jaunes. Soyez les bienvenus. Donc pour cette première heure, on l'écoutera donc ensuite à partir de 20h. Bienvenue.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Allez, Janie, c'est vous qui commencez. Soyez la bienvenue. Bonsoir à vous.
Bonsoir, France Inter. Voilà, mes revenus se réduisent comme peau de chagrin parce que j'ai cotisé à la préfond en plus. Donc, je voulais savoir jusqu'à quelle limite vont s'appliquer les retenues de CSG si chaque année, ça va être toujours moins. Moi, je ne bénéficie d'aucune aide.
Vous êtes retraitée, Janie, qu'on comprenne bien. Vous êtes retraitée?
Oui, retraitée.
D'accord. Et est-ce que vous avez déjà calculé, vous savez de combien votre retraite a baissé, par exemple, ou pas?
20%.
D'accord. OK.
L'ensemble, parce que on a pris même sur ce que j'ai, sur mes, ce que j'ai touché étant étudiante, pour tout a été laminé.
On a compris, Janie, pardon, hein, de vous interrompre, parce qu'il y a du monde au standard de France Inter, on a compris que vous êtes retraitée, que l'augmentation de la CSG a été une forme de coup de boutoir pour vous. Et merci beaucoup pour cette entrée en matière, parce qu'il y en a beaucoup des retraités qui posent des questions un peu similaires. Il y en a beaucoup aussi qui s'étaient déjà exprimés, notamment au moment du grand débat, pour essayer de répondre à votre question, Janie, et pour parler avec tout le monde ce soir et jusqu'à 20h, voire 21h. Dominique Médaille, là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste du travail et des politiques sociales. Bonsoir Jérôme Fourquet.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP. Vous avez écrit notamment L'archipel français, c'est publié chez Seuil. Et Cyril Gradiani est là également, journaliste au service politique de France Inter. Bonsoir,
bonsoir
à vous. Cyril, pour aller dans le sens de ce que dit Janie, et c'est un peu ce que je disais aussi en introduction, il va en falloir pour tout le monde. Or, il ne peut pas y en avoir pour tout le monde. Est-ce qu'on peut à la fois répondre à Janie et aux autres aussi, Dominique Méda? C'est ça la très grande difficulté de ce qui va se passer dans une demi-heure maintenant. Ben,
ce serait bien. Alors on sait bien qu'une des butées très importantes, c'est les dépenses publiques. C'est-à-dire on a quand même un président qui nous dit qu'on ne peut pas augmenter les dépenses publiques, et donc on va baisser les impôts, mais qu'on va aussi baisser des services quoi, mm-hmm. parallèlement. Alors moi, j'ai eu la chance d'être invitée avec les intellectuels mm-hmm. dans le débat, mm-hmm. et donc je lui ai posé exactement cette question. Est-ce qu'il est prêt à faire un grand investissement d'au moins 20 milliards dans la transition écologique et sociale? Et il a répondu, il a fermé immédiatement la porte en disant Sarkozy l'a déjà essayé, et la France n'est pas plus heureuse, et le taux de chômage n'a pas baissé. Donc, voilà. Alors, il faudra qu'on s'interroge, je ne sais pas s'il y sera parvenu, mais qu'on s'interroge sur l'intérêt de garder toujours cette obsession des dépenses publiques, mmh. du pourcentage de 3% de déficit public, la dette, etc., qui pèse sur nous quand même depuis trop longtemps.
Jérôme Fourquet, sur à la fois ce que disait Janie et la difficulté effectivement de parler à tout le monde et de répondre donc à tout le monde dans l'exercice que fera Emmanuel Macron dans une demi-heure.
Alors effectivement, là on voit bien, c'est la question des marges de manœuvre. Donc si on est dans le cadre contraint qui est celui des critères européens, et qu'on intègre aussi le fait que ce gouvernement avait en tête le degré d'exaspération fiscale des Français, c'est pour ça qu'il a supprimé en grande partie la taxe d'habitation, plus qu'ensuite il y a eu les mesures à hauteur de 11 milliards en décembre, mmh. on voit bien que, si vous me permettez l'expression, un certain nombre de cartouches ont déjà été tirées. Et donc, en direction de ces retraités dont on dit qu'ils sont une des cibles mmh. électorales à venir pour le scrutin des européennes pour la majorité En Marche, eh bien, on a eu un certain nombre de mesures, hein, le relèvement du seuil l'abaissement du seuil au-delà duquel la CSG serait perçue. Et puis, il reste en débat la question aussi de la désindexation des pensions sur l'inflation. Alors, ça fait pas, si vous voulez, le différentiel et ne permettrait pas de combler la perte de pouvoir d'achat que Jeannie a indiqué, mais c'est aussi une piste sur laquelle le gouvernement et le président de la République ont réfléchi. Mais on voit que, effectivement, dans la quadrature du cercle, on ne pourra pas donner des signaux positifs à tout le monde, sachant encore une fois le mouvement des Gilets jaunes qui a donné naissance à ce grand débat s'enclenche au début sur la question du prix des carburants, et le litre d'essence, notamment en province, est à repasser la barre des 1,50€. Mmh. Hein, donc on voit bien que là-dessus aussi, sur la vie quotidienne, on a des marges de manœuvre qui sont très très restreintes et des attentes qui sont fortes.
Et Dominique Méda, ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, c'est que des Jeannie, dans le grand débat, il y en a eu beaucoup.
Absolument.
En fait, on est un peu dans l'archétype des gens qui ont vraiment participé.
Absolument. Alors quand elle parle de 20%, c'est quand même énorme. Mmh. Quand elle dit que sa retraite a baissé de 20%, ça me paraît tout à fait énorme. Mais on voit bien que là, il y a une population qui doit être angoissée, en effet, parce qu'elle voit ses retraites baisser. Et puis, en plus, il y a l'énorme question de la dépendance dont on parle beaucoup depuis une dizaine d'années, pour laquelle on n'arrive pas à trouver de moyens. Est-ce qu'on va faire un cinquième risque? Est-ce qu'on va au contraire laisser chacun se débrouiller avec sa petite assurance privée, ce qui fera exploser les inégalités? Donc là, on sent qu'il y a un énorme nœud.
Cyril Gardiani, si Emmanuel Macron, faisant un tout petit peu de politique avant de retourner au standard, si Emmanuel Macron ne convainc pas là, dans cette intervention qui sera la sienne, qu'est-ce qu'il risque?
Ça, c'est difficile à savoir. Il est conscient, en tout cas à l'Élysée, on est conscient que ce soir, c'est le moment T. Mmh. Mais c'est le moment T comme le soir du 10 décembre, où il était très très attendu. Et c'est vrai que le 10 décembre, il n'avait pas parlé pendant 3 semaines. Il avait laissé la crise prospérer comme on l'a
vu. Et depuis non plus, d'ailleurs.
Et depuis, il a peu parlé. Il a laissé le grand débat vivre. Il a vécu aussi, puisque on l'a beaucoup vu partout en France. On a vu des marathons, on l'a vu interrogé par les maires, mais on ne l'a pas réellement vu interrogé par les Français. Et ce soir, les réponses qu'il va apporter, c'est justement des réponses que les Français attendent. Et c'est en ça que ce soir est un moment très très important pour son quinquennat. On va pas dire, parce que certains expliquent que c'est
l'acte 2,
la fin, machin. Il peut toujours se passer beaucoup de choses dans un quinquennat. Ça dure 5 ans, il lui reste encore 3 ans. Mais c'est vrai que ce soir, beaucoup de ce qui va se passer dans les prochaines années se joue.
Dominique Méda,
moi je trouve qu'il a quand même beaucoup parlé, parce que dans tous ces débats là, dans toutes ces visites avec les maires, avec les Français, il a énormément parlé. Parce
mais que on ne retient pas grand chose au final.
il a quand même fermé beaucoup de portes, j'ai l'impression. Moi c'est ça que je retiens hein, dans l'ensemble des débats qu'il a fait. Il a apporté c'est curieux d'ailleurs, hein, il a apporté des réponses déjà, et donc il a dessiné la cartographie des possibles, me semble-t-il. C'est pour ça que ça me semble une véritable gageure ce soir, hein, ce qu'il va faire.
Et en même temps, il y a une conférence de presse qui viendra derrière, ce qui est aussi une manière, Jérôme Fourquet, de donner quelques indications supplémentaires, on va dire. Ça veut dire grandes lignes là, les grandes orientations, et puis derrière, enfin se soumettre au jeu du question-réponse avec les journalistes au moins.
Alors oui, effectivement, alors ça peut être aussi une façon de gagner encore un peu plus de temps, hein, parce qu'on le voit dans l'exercice très contraint qui est celui-ci, face aussi aux revendications.
Attendre de voir comment ça réagit, peut-être.
Alors
simplement,
aussi, hein, effectivement.
Mais c'est un risque aussi.
Bien sûr.
Exactement.
C'est plus un risque, selon vous, qu'une bonne chose de faire cette chose en deux temps, en fait. C'est ça que vous voulez dire?
Et je pense que on est un peu dans l'expérimentation, hein, puisque de nouveau la pression s'exerce sur l'exécutif. Emmanuel Macron était parvenu à reprendre la main sur le calendrier en annonçant ce grand débat. On en est à la fin. Il y a eu ce fameux samedi où la pression a remonté d'un coup à la fin du grand débat, en amenant le président de la République à revenir en catastrophe des Pyrénées. Et depuis, on a l'impression qu'il subit de nouveau l'agenda.
Alain, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Alain. Soyez le bienvenu.
Oui. Oui, merci. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée aussi à vous. Cela dit, j'ai deux questions. J'avais plein de questions, mais je vais restreindre. Un, sur le rétablissement de l'ISF. Alors, on me dira, oui, c'est pas beaucoup. Effectivement, c'est pas beaucoup. Sauf que c'est un symbole. Le symbole, c'est on laisse à ceux qui ont beaucoup d'argent, eh bien, on laisse. On a supprimé les SF pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Alors que ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui vivent chichement, eux, on leur fait pas de cadeaux. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose qui me semble très importante, c'est la limitation des mandats des élus à 3 mandats et pas plus. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les élus, quels qu'ils soient, de quelque couleur politique qu'ils soient, eh bien, ça devient des professionnels de la politique. Et ça, c'est très grave pour une démocratie.
Merci. Alain, j'ai une question subsidiaire, pardonnez-moi. Vous avez participé, vous, au débat ou pas,
dans votre commune?
D'accord.
Oui, j'ai envoyé... dans ma commune, oui, malheureusement, on était il y a très peu... Il n'y a pas eu de débat dans la commune, mais j'ai écrit ce que je viens de vous dire, d'ailleurs.
D'accord.
Voilà. Oui, bien sûr. Je suis un citoyen, je me sens concerné par la situation.
Merci beaucoup, Alain. Moi, ce que je trouve formidable, Dominique Méda, extrêmement intéressant, c'est qu'au fond, ce mouvement a commencé le 17 novembre. On entendait déjà ça assez vite. On l'entend toujours. On est à la fin du mois d'avril. Ça dit quand même beaucoup de choses, sérieusement. Parce que ces réponses-là, les gens non seulement ne les ont pas eues, mais savent toujours pas s'ils vont les avoir, au fond.
Absolument. Moi, je crois, sauf s'ils changent ce soir, mais Emmanuel Macron a déjà dit qu'il n'ouvrirait pas cette porte-là. Et ce que dit Alain sur le symbole, c'est extrêmement important. Là, on a vraiment besoin de symboles, de montrer que... Alors, on nous dit que peut-être on va faire des tranches d'impôt sur le revenu plus basses, très bien, mais je crois qu'il y a aussi l'idée, en effet, qu'il faut que les plus riches, qui ont quand même beaucoup profité depuis une vingtaine d'années, participent un peu plus, qu'ils partagent le fardeau commun et qu'il n'y ait pas que les classes populaires qui le supportent. Ça me semble absolument déterminant. Et s'il ne dit pas quelque chose de symbolique, alors pour moi, ça va être absolument catastrophique.
Est-ce que ça suffit de redéfinir des tranches, effectivement, ou pas, selon vous, Jérôme Fourquet ? Est-ce que ça suffit à entendre, ou est-ce que tout ce que les gens veulent entendre, c'est rétablissons l'ISF et sans autre forme de procès ?
C'est sûr qu'en termes d'impact symbolique, le rétablissement de l'ISF serait beaucoup plus efficace, puisque la question des tranches, tout de suite, on rentre sur des barèmes, tout ça est quand même assez technique, donc en termes d'efficacité, ce serait plus fort. Si on reste sur le plan du symbole, on voit qu'aussi on a des revendications sur nos institutions, avec la question de la limitation dans le temps du nombre de mandats. Un ballon d'essai a été envoyé aussi sur une éventuelle suppression de l'ENA, sur l'introduction d'une dose de proportionnelle, donc il peut y avoir la tentation de la part du président et de son équipe d'aller assez loin dans les symboles sur le plan institutionnel et politique et de ne pas répondre ou de répondre en dessous de la main, si vous voulez, sur la question fiscale où les marges de manœuvre sont apparemment plus faibles. Mais là, c'est un vrai risque.
Ouais, sauf que c'est là qu'on l'attend, spécifiquement sur la question fiscale.
On l'a bien vu, même les gens qui ont participé au grand débat sur la plateforme digitale, qui ne sont pas représentatifs de la société française, puisqu'ils avaient un profil plus urbain, plus âgé, les départements plutôt macroniens qui se sont mobilisés, attendent en priorité, même eux, des choses sur la fiscalité.
Mais c'est vrai qu'on l'a aussi beaucoup dit, les gens parlent de fiscalité, ils parlent surtout d'une meilleure répartition, en fait, au fond. Donc est-ce que, de toute façon, les rétablissements, les changements de tranches, est-ce que ça participe d'une meilleure répartition, selon vous, Dominique Méda ? Est-ce que ça aiderait au moins à avoir ce sentiment-là ?
Oui, il me semble, par exemple, que si on faisait une tranche supplémentaire, c'est-à-dire qu'une tranche au-dessus de 45%, ça veut dire qu'on tape quand même les très hauts revenus, plus de 250 000 euros, donc il y a quand même plus grand monde, et ça symboliquement c'est très important. Mais là où le débat est très compliqué, c'est que je crois que je ne sais pas qui en France sait comment fonctionne l'impôt sur le revenu. On a vu dans des débats récents...
Personne ne sait combien de gens payent l'impôt sur le revenu, parce que par ailleurs, là aussi, quand on parle de pression fiscale, il y a des gens qui ne payent pas d'impôt sur le revenu qui parlent de pression fiscale, donc éventuellement c'est la TVA qui leur pose problème.
Ou la CSG.
La CSG
qui est quand même maintenant très lourde. Ça c'est très important. Souvenez-vous, quand Rocard l'a créée, elle était à 1,1% et maintenant elle est près de 10%. Donc c'est énorme quand on voit arriver. Et ça, les revenus des personnes sont frappés au premier euro par la CSG. Donc ça, c'est lourd.
Et ça, Jérôme Fourquet, c'est bien ce dont vous parlez, notamment dans l'archipel. Comment on fait pour que, par l'ensemble... Au fond, ils disent tous la même chose, ces gens-là, quand on parle de pression fiscale, mais aucun d'eux ne la voit de la même manière. La TVA, l'impôt sur le revenu, la CSG, l'ISF... ce sont quatre personnes différentes qui sont sur la même ligne au fond. Hein.
Tout à fait. Et on a bien vu que, par exemple, sur les fameux ronds-points, pas mal de gens qui étaient sur les ronds-points, par exemple, n'étaient pas forcément assujettis à l'impôt sur le revenu, mais payaient bien évidemment la TVA, payaient aussi beaucoup, puisqu'ils étaient très dépendants de la voiture, les taxes sur les carburants. Et puis, pour une partie d'entre eux, c'est passé relativement inaperçu, avait essuyé la hausse du prix du paquet de cigarettes. Les prémices du mouvement des Gilets jaunes, c'est quand même les 80 km/h, avec l'idée que les radars vont flasher de plus en plus. Et nous avons aussi une hausse de 1 euro qui peut se justifier pour des impératifs de santé publique, mais d'un euro sur le paquet de cigarettes. Moi, j'ai fait le compte sur quelqu'un qui fumera un paquet tous les deux jours et qui roule le kilométrage moyen des Français. Eh bien, entre la hausse du paquet de cigarettes et la hausse des prix des carburants constatée l'année dernière, tout le bénéfice de la suppression de la taxe d'habitation était mangé par ces deux mesures-là. Hein, donc on voit bien que cette pression fiscale, elle s'exerce de manière non homogène, mais puissante sur toutes les tranches de la société. Et beaucoup de Français ont le sentiment de ne pas en avoir pour leur argent, ou qu'ils sont plus mis à contribution que le voisin, ce qui crée des tensions supplémentaires.
Et on voit bien le décalage qu'il peut y avoir. Je vous entends parler, j'imagine le nombre de gens de l'autre côté du poste qui sont en train de se dire « Eh ben, écoutez, de toute façon, il faudra arrêter de fumer et faire attention avec la voiture ». Non, mais je dis ça sans plaisanter. Ouais. Il y a toute cette catégorie-là qui existe face à l'autre, celle que vous décrivez, tout qui effectivement n'a pas vu les bénéfices de la taxe d'habitation à cause de la voiture, à cause de la clope et du reste. Et ça aussi, bien sûr, c'est une réalité.
Tout à fait.
Alain, bonsoir. Pardon. Non, Alain, on vous a déjà entendu, excusez-moi. C'est Nicolas, pardon, excusez-moi.
Oui, bonsoir.
Bonsoir à vous, Nicolas, pardon.
Oui, voilà, je voulais intervenir parce qu'effectivement, il me semble qu'en faisant un rapide calcul de comptable, on arrive quand même à des chiffres qui sont assez impressionnants. Le budget de l'État, si on regarde bien, c'est 322 milliards. Il y a à peu près 250 milliards de recettes. Donc en gros, il manque 80 milliards à boucher. Et ces 80 milliards-là, on les trouve assez facilement dans ce qu'on appelle communément l'évasion fiscale, quoi. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à Macron simplement qu'il aille chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les riches, quoi. La France, elle n'a jamais été aussi riche, on n'a jamais eu un PIB aussi élevé, et on nous fait croire qu'on n'a plus d'argent, on nous fait croire qu'il n'y a plus de sous dans la caisse, alors qu'en réalité, les sous, ils y sont, c'est juste qu'ils se promènent dans les paradis fiscaux, et qu'effectivement, on ne va pas les chercher. Et donc, on laisse le choix aux pauvres entre augmenter les impôts ou diminuer les services publics, alors qu'en fait, c'est un faux choix. Merci. En fait, les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui en ont pas. Et moi, j'aimerais bien que McDo, BNP, Total, la Société Générale, Areva, Amazon et tout ça, ils payent leurs impôts, quoi. Plutôt que de demander aux retraités de serrer la ceinture et de leur demander est-ce que vous voulez que payer plus d'impôts ou qu'il y ait plus de postes en bas de chez vous, non, on pourrait leur demander est-ce que vous préférez que Areva paye ses impôts ou qu'on vous augmente vos impôts à vous. Ce serait peut-être déjà un choix plus pertinent, je pense.
Merci beaucoup, Nicolas. Dominique Méda, évidemment, et en même temps, pas si simple. Mais
non,
évidemment,
on
comprend ce raisonnement de
tout
qui vient
fait.
De Nicolas.
Et ça fait longtemps aussi qu'on entend ça, hein, l'évasion fiscale comme la caisse dans laquelle on pourrait en effet aller chercher. Et puis toutes les niches fiscales aussi. Hein. Alors là, apparemment, on va nous proposer de revoir certaines niches fiscales. Mais en même temps, ce sont des dossiers très techniques, parfois avec des dimensions européennes où on n'est pas maître de nos décisions. Et puis, il y a toujours cette fameuse théorie du ruissellement, hein, c'est-à-dire on considère qu'il ne faut pas trop embêter les plus riches parce que les plus riches, ils vont permettre de mettre leur argent dans la société.
Alors, Cyril Gradiani, une information qui est d'importance quand même, parce que nous, on a les images ici, parce qu'on voit sur les télévisions un incendie spectaculaire, extrêmement spectaculaire à Notre-Dame. Et Cyril, à l'instant, un message du président de la République.
Une information de l'Élysée sur les boucles que nous détenons, journalistes. En raison du terrible incendie qui ravage Notre-Dame, le président de la République a décidé de reporter son allocution de ce soir, qui était prévue à 20h.
Voilà, la reporter, on ne sait pas à quel moment, mais on imagine dans peu de temps quand même.
Dans peu de temps,
mais effectivement, les images qui sont ici sont totalement spectaculaires. On imagine que le président de la République va donc du coup non seulement aller sur place probablement, essayer de voir ce qui se passe réellement, quelle est l'étendue, quelle est l'ampleur des dégâts. On va quand même poursuivre nous notre discussion parce que
que l'allocution normalement a été enregistrée.
Alors, donc elle sera diffusée.
Elle sera certainement diffusée.
Elle aura lieu.
Sera certainement réadaptée en fonction des circonstances du soir.
Et les solutions après le grand débat et autour des Gilets jaunes, il faudra de toute façon essayer de les trouver. Cyril Gradiani, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs en matière de communication dans ces moments-là, en termes de com', dans ces moments-là Là, effectivement, l'attention est ailleurs, mais il faudra pas tarder non plus. Il y a une conférence de presse qui vient mercredi. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on attend, on fait le package, finalement, on fait ça tout mercredi? Qu'est-ce qui est en train de se passer, à votre avis, dans les bureaux?
Alors, ce qui était curieux dans le timing entre l'allocution ce soir et la conférence de presse mercredi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est laisser ce laps de temps, finalement, pour peut-être dénicher les loups. Trouver les loups entre, on s'en souvient au moment de l'allocution du 10 décembre, il annonce 100 euros de SMIC et très très rapidement, oui, on a décortiqué, oui, les 100 euros de SMIC. Mmh. On, oui, s'est rendu compte que c'était une partie de la prime d'activité qui était versée avant. Donc au final, c'était peut-être pas 100 euros, c'était quelques dizaines d'euros.
Tout
donc
à fait.
Là, avec une allocution, bon, qui était prévue ce soir, mais quoi qu'il en soit, si elle est prévue demain soir, ça va laisser le temps aussi aux détracteurs, aux opposants, d'essayer de voir quelles sont les failles, justement, du discours du président.
C'était déjà le risque entre une allocution un lundi et une conférence de presse mercredi. C'était déjà le risque dans lequel on risquait de tomber. J'avoue que j'ai du mal à comprendre quel était l'intérêt, au fond, de laisser ce laps de temps à chacun pour réfléchir, Jérôme Fourquet, à votre avis.
Alors peut-être, comme on a dit tout à l'heure, pour que l'exécutif prenne un peu la mesure de le degré d'acceptation, la façon dont ces annonces ont été reçues par le corps social pour éventuellement ajusté, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, on va sans doute quand même être sur des modalités qui sont assez techniques et qui laissent pour un public profane quand même des marges de manœuvre ensuite pour adapter en disant voilà, on s'est mal exprimé, on a mal compris, je vais rectifier ou je vais préciser ma pensée.
Et ce qui était intéressant aussi, c'était de voir que là, c'était le président de la République qui faisait lui-même le service après-vente des annonces qui allaient être faites. Il ne laissait pas ses ministres se déployer partout dans les matinales.
Ça a été le cas la semaine dernière. Il y a eu un gros service avant-vente, ouais, d'une certaine façon, avec le Premier ministre plusieurs fois et quelques ministres.
Mais le 10 décembre, on s'en souvient, il fait ses annonces et le lendemain, c'est une catastrophe. Nous, on avait eu Muriel Pénicaud sur le plateau, dans ce studio,
qui avait été vainement d'expliquer
les 100 euros de SMIC.
Bonsoir Philippe. Philippe, est-ce que vous êtes là? Normalement, vous êtes là. Normalement, vous êtes à Vincennes. C'est pourtant pas si loin. Est-ce que Philippe est là? Ah,
oui,
on vous écoute.
Philippe, bonjour. Allez-y. Oui, attendez, je m'écarte un petit peu de la radio parce qu'en fait, j'étais sur mon ordinateur. Voilà. Vous m'entendez?
Je vous entends très très bien. Je vous en prie, allez-y.
Bon, très bien. Écoutez, moi, je vous appelle parce que je suis quand même très étonné de constater que le chômage, quand même, qui concerne plusieurs millions de personnes dans ce pays, a été vraiment absent des discussions des Gilets jaunes pendant tous ces mois. Et c'est un peu triste parce qu'il faut croire en fait que on dirait que dans ce pays on a réglé le problème du chômage et donc j'aimerais savoir pourquoi il a été si peu évoqué pendant tous ces longs mois.
Merci beaucoup Philippe, c'est une question pour vous Jérôme Fourquet notamment, et c'est vrai que c'est très intéressant, un mouvement du samedi, voilà. Ce sont des gens qui travaillent, voilà. Ce sont des salariés pauvres le plus souvent, mais ce ne sont pas des chômeurs et surtout ce mouvement visiblement ne les a pas accrochés, ces chômeurs-là, ou finalement assez peu.
Il y en a eu au bout d'un moment sur les ronds-points ou dans les manifestations, mais effectivement les gros bataillons, si vous me permettez l'expression, étaient plutôt composés par des salariés, des actifs, enfin, pas que des salariés d'ailleurs, on a vu pas mal d'indépendants aussi, des auto-entrepreneurs, et donc qui était bien un mouvement de mobilisation, ce qu'on pourrait appeler de soit de contribuables, soit même de consommateurs. C'est le premier mouvement social qui a lieu un samedi. On a bloqué les fameux Black Friday. Donc on était.
On fait pas grève. Il n'est pas question de faire grève.
Il y a deux choses. Là sur le fait de pas faire grève, c'est sans doute que y a une tentative ensuite avec la CGT d'appeler à la grève générale. Mais ces salariés dans les secteurs d'activité, dans le type d'entreprise dans lequel ils sont, je pense qu'ils expérimentent au quotidien le fait que le rapport de force syndicale ou sociale n'est plus en leur faveur. Et donc il faut faire peser sur...
Donc on se tourne pas vers le patron, mais on se tourne vers l'État.
D'ailleurs, vous voyez que le MEDEF, au niveau national comme au niveau local, a été laissé très tranquille. Il n'y a pas eu de manifestation sous les fenêtres du MEDEF. Alors, on peut tirer deux conclusions. D'une part, le fait que ces salariés, pour l'amélioration de leur pouvoir d'achat, se disent qu'aujourd'hui, c'est du côté de la pression fiscale qu'il faut regarder et non pas du côté d'une hausse des salaires parce que ils ont intégré à tort ou à raison le fait qu'il n'y ait plus de marge de manœuvre dans les entreprises. Et puis, l'autre élément qu'indiquait votre auditeur sur le fait qu'on se soit habitué collectivement à un chômage de masse, c'est peut-être en partie vrai. Moi, ce qui m'avait frappé, par exemple, dans la campagne présidentielle, c'est qu'à côté de la fameuse mesure d'Emmanuel Macron sur la suppression de la taxe d'habitation, l'autre mesure qui avait le plus marqué les esprits et que les Français avaient le plus mémorisé, c'était la proposition de Benoît Hamon de revenu universel. Pourquoi? Alors en positif ou en négatif, mais les Français s'étaient dit, c'est le premier qui met un pavé dans la mare en disant que peut-être il n'y aura plus jamais de plein emploi et qu'il faut penser à autre chose. Et donc c'est une autre façon d'aborder le problème. Mais effectivement, dans ce mouvement des Gilets jaunes, qui était d'abord et avant tout un mouvement de salariés, on a parlé beaucoup de taxes et de pouvoir d'achat et assez peu d'accès à l'emploi.
Dominique Méda, autour de ces questions-là, moi ça me fascine effectivement depuis le début, et nous tous, je crois, c'est un mouvement qui ne s'inscrira pas dans le mouvement ouvrier, c'est un mouvement qui ne parle pas de l'entreprise, d'intérieur de l'entreprise, c'est un mouvement qui ne parle pas du patronat, c'est un mouvement qui ne parle pas d'augmentation de salaire, comme le dit effectivement Jérôme Fourquet, qui dit tout autre chose, et qui dit donc, de toute façon, de ce côté-là, les batailles sont perdues, il faut aller les gagner ailleurs.
Je suis pas totalement vrai. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas eu de lien avec les chômeurs, les jeunes des banlieues, ou les plus pauvres, qui sont un peu privés de parole, qui n'arrivent plus à s'exprimer, et dont, de toute façon, on ne parvient pas à organiser la voix collective, quoi, en quelque sorte. Mais je dirais pas que toutes ces questions-là étaient complètement absentes, parce que, alors, c'était pas formulé dans les termes habituels des syndicats. Mmh. C'est-à-dire, en effet, les patrons contre les salariés, etc.
Et d'ailleurs, les syndicats n'ont pas réussi à le capter.
C'est vrai. Mais il y avait quand même, on parlait quand même beaucoup de précarité, des petits salaires, de la difficulté du travail. Mmh. On sait qu'il y avait beaucoup de gens avec des petits temps partiels. Et quand même, les petits salaires, c'était central dans l'histoire. Alors, c'est vrai qu'ils se sont pas retournés vers les employeurs en disant augmenter nos salaires, mais je dirais que ça dépend. Enfin, dans ce mouvement, il y avait de toute façon. Mais souvenez-vous, là, les gilets jaunes à Commercy, il y avait toutes ces revendications de redistribution, y compris au sein de l'entreprise.
Est-ce qu'on dit salarié pauvre, Jérôme Fourquet, ou on est même dans une catégorie de classe moyenne décrocheuse en quelque sorte, en fait, qui arrive beaucoup moins que même la génération précédente.
Oui, je suis d'accord avec Dominique Méda sur le caractère assez hétérogène, et donc il y avait beaucoup de profils différents sur ces ronds-points, mais je pense que la force agissante, c'est le bas de cette classe moyenne qui se sent décroché et qui, bien que travaillant, n'arrive plus à accéder à la société de consommation. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que le 18 novembre, le lendemain de l'acte 1, en Seine-et-Marne, qui est un des épicentres du mouvement, les Gilets jaunes qui étaient restés mobilisés sur le terrain, que font-ils? Eh bien, ils vont en cortège chez Euro Disney, ils obtiennent d'ouvrir les barrières gratuitement pour faire rentrer les gens. Et on l'a entendu de très nombreuses reprises dans les reportages, je ne peux plus m'offrir un petit extra, je ne peux plus emmener mes enfants au cinéma, alors que ma femme et moi, nous travaillons. Quand j'étais enfant, je partais en vacances tous les ans avec mes parents, je ne peux plus emmener mes propres enfants en vacances, bien encore une fois que nous travaillons tous les deux. Et donc il y a ce décrochage d'une partie de la classe moyenne. Quelque part, on pourrait parler d'un terme un peu barbare, d'une forme de démoyennisation. C'est-à-dire, on n'est plus dans les années 70 avec des gains de productivité importants qui se traduisent par des hausses de salaire. On a aussi tout ce qui est les dépenses contraintes qui ont énormément augmenté et qui laissent un reste à vivre qui est de plus en plus étroit pour beaucoup, beaucoup de salariés.